Romain Rolland, L'éclair de Spinoza. J'ai toujours vécu, parallèlement, deux vies. L'une, celle du personnage que les combinaisons des éléments héréditaires m'ont fait revêtir dans un lieu de l'espace et une heure du temps. L'autre, celle de l'être sans visage, sans nom, sans lieu, sans siècle, qui est la substance même et le souffle de toute vie. Mais de ces deux consciences, distinctes et conjuguées, l'une épidermique et fugace, l'autre durable et profonde, la première a, comme il est naturel, recouvert la seconde pendant la plus grande part de mon enfance, de ma jeunesse et même de ma vie active et passionnelle. Ce n'est que par soudaines explosions que la conscience souterraine, réussissant à forer l'écorce des jours, jaillit comme un jet brûlant de puits artésiens, pour quelques secondes seulement, de nouveau disparu et sucé par les lèvres de la terre. Jusqu'aux temps accomplis de la maturité, où les coups répétés des blessures de la vie élargissant les fissures de l'écorce, la poussée de l'âme intérieure frais à l'être caché son talweg et son lit de fleuve dans la plaine. Avant d'en arriver à cet état de communion directe où je suis à présent avec la vie universelle, j'ai vécu séparé d'elle et proche, l'entendant cheminer avec moi, sous le rocher, et soudain, de loin en loin, aux instants que je m'y attendais le moins, vivifié par ces irruptions de flots artésiens qui me frappaient à la face et qui me terrassaient. J'ai noté trois de ces jets de l'âme, trois de ces éclairs, qui remplirent mes veines du feu qui fait battre le cœur de l'univers. La trace de leur brûlure est restée aussi vive en mon vieux corps que l'épreuve a depuis roulé comme un galet, qu'à la minute lointaine où elle s'imprimait dans la chair délicate et fiévreuse de l'adolescent. Je ne livrerai ici que le récit du second de ces éclairs, les mots de feu de Spinoza. Entre 16 et 18 ans, deux tragiques années, insignifiantes aux yeux qui n'en verraient que l'étoffe, la vie familiale et scolaire d'un incertain adolescent. Mais elles ont recélé les monstres dévorants du désespoir mortel. En ces jours, non en d'autres, j'ai touché le fond du néant. « Ô aimable jeunesse !» me dit amèrement Spitzler en pensant à la sienne. J'y reviendrai ailleurs. Seul, tandis que je sombrais, la tempête de Shakespeare, soulevant les couches profondes du morne océan, ramenait par remous mon épave à la surface pour la replonger dans la nuit. Je dirai le compagnon que me fut alors Hamlet, et le commentaire agrippé à chaque mot comme un lierre que je lui ai consacré. Mais dans l'esprit s'opérait une métamorphose, puissante et déchirante. Je muais de corps et d'âme, de la voix comme de la pensée. À 16 ans, mon intelligence était encore fermée aux idées abstraites. Je traversais en aveugle la classe de philosophie au lycée Saint-Louis, avec Evelyne et Darlu. Devant ces mots sans visage, sans couleur, sans odeur, que les mains ne pouvaient pas palper, que la bouche ne pouvait mordre, qui se refusaient à la caresse comme à la blessure des sens, ces mots machines de la métaphysique et des mathématiques, instruments de génie créés par le cerveau, je restais privé de souffle et hostile. Fuori barbari. Or, moins d'un an après, en classe de philo, que je redoublais à Louis-le-Grand, pour me préparer à Normal, j'étais devenu le premier, et l'excellent Monsieur Charpentier, mon maître grand et gros, jubilait en donnant à pleine voix lecture à son troupeau de mes dissertations. Où d'ailleurs, traîtreusement, metteur en scène de la pensée, je faisais dialoguer Malebranche avec son chien. La porte était ouverte, et j'enjambais le seuil du royaume de l'informe, sans doute en l'anthropomorphisant, mais combien de philosophes, et je dis des plus grands, ont été moins naïfs ou plus outrecuidants. Le cercle philosophique était assez étroit dans la classe de philo A de Louis-le-Grand, mais soigneusement pioché et retourné. Il restait confiné entre les hautes haies du jardin de Descartes, Versailles de la pensée. J'ai été substantifiquement nourri de la moelle cartésienne pendant 2 ou 3 années. J'y ajoutais ce que j'allais grappiller dans l'enclos voisin, philo B, à la vigne de Burdeau, des fantasmagories présocratiques. Quelques graines tombées du bec de ces grands oiseaux, ioniens et trinacriens, ont germé depuis dans mon empédocle d'Agrigente. Mais le chemin naturel de l'esprit me conduisait à ceux qui, partis du majestueux jardin muré de Descartes, y avaient par une brèche ouvert des perspectives illimitées. Il me mena tout droit, d'instinct, comme un chien, guidé par le flair de deux ou trois mots, à Spinoza. J'ai gardé précieusement l'édition devenue rare, achetée sous les galeries de l'Odéon, qui fut en ces années mon élixir de vie éternelle. Œuvre de Spinoza, traduite par Émile Cessé, avec une introduction critique, nouvelle édition revue et augmentée, Charpentier, 1872, 3 volumes cartonnés en verre. Bien que ma pensée soit maintenant affranchie du strict rationalisme de Maître Benoît et qu'elle en ait reconnu main paralogisme, il me reste sacré, à l'égal des livres saints pour un qui croit en eux, et je ne touche ces trois volumes qu'avec un pieux amour. Je n'oublierai jamais que dans le cyclone de mon adolescence, j'ai trouvé mon refuge au nid profond de l'éthique. C'est 4 heures, l'hiver, le jour tombe, le jour terne d'un ciel gris et glacé. Je suis assis devant ma table, adossée au mur, près de la fenêtre. Dehors, la rue Michelet, déserte, où s'engouffre la bise, et séparée par une grille, le funèbre jardin de l'école de pharmacie, où les rares visiteurs semblent prier devant les tombes des plantes. Mais je ne vois rien du dehors, je suis muré, muré dans la chambre close, muré dans ma carapace hérissée contre le froid, qui pénètre dans la pièce non chauffée et jusque sous le par-dessus où se recroqueville mon corps frileux. Muré dans la contemplation du livre que tiennent mes doigts gourds. Autour de moi, je sens morne halo, le triste jour qui meurt, l'implacable nature, l'étau de la ville de pierre et celui de mes pensées. L'éternel prisonnier, attaché dans sa geôle, traîne aux pieds le boulet du souci, de la lutte pour la vie, l'obsession acharnée de l'examen qui empoisonne tant de jeunes existences, des échecs répétés, de la nécessité de crisper toutes ses forces pour le combat, malgré le dégoût du combat, l'obligation morale de vaincre non seulement pour vivre, pour sauver sa vie, mais pour sauver celle des siens, pour répondre à leur sacrifice absolu qui a misé tout leur sort sur une carte, sur mon sort. Malheureux enfant débile, sur qui pèse une responsabilité trop lourde qu'il n'a pas demandée. Elle l'oppresse, et pourtant elle lui est une armure. En écrasant ses épaules, elle l'oblige à se raidir. Sans elle, il s'abandonnerait aux rêves incessants qui bourdonnent dans le fond de la ruche fermée. Mais sous la chape qui le recouvre, sa frêle et nerveuse énergie se concentre, se tend, angoissée, vers une lueur qui filtre par l'étroit soupirail. Elle filtre. Je la fixe dans la nuit de ma cave, je la fixe entre les barreaux noirs des lignes du livre vêtu de verre. Et sous la fixité trouble de mon regard halluciné, voici que les barreaux s'écartent et que surgit le soleil blanc de la substance. Métal en fusion qui remplit la coupe de mes yeux, il coule dans mon être qu'il consume, et mon être, comme une fonte, rejaillit en la cuve. Il a suffi d'une page, la première, de 4 définitions et de quelques éclats de feu qui ont sauté au choc des silex de l'éthique. Je ne me fais point illusion et ne veux pas en faire aux autres. Je ne prétends ni que cette vertu de miracle soit inhérente à des mots magiques, ni que j'y ai alors saisi la pensée vraie de Spinoza. De même qu'en lisant le long premier volume d'introduction, honnête et timoré par Émile Cessé, je ne m'arrêtais pas aux arguments effarouchés de ce spiritualiste et sautais allègrement par-dessus son garde-feu dans le brasier, dont son labeur avait pour objet de me défendre, naïf contradicteur, c'est à eux que l'on doit de connaître et d'aimer les génies interdits. Ainsi, dans le texte même de Spinoza, je découvrais non lui, mais moi, ignoré. Dans l'inscription tracée au porche de l'éthique, dans ses définitions aux lettres flamboyantes, je déchiffrais non ce qu'il avait dit, mais ce que je voulais dire, les mots que ma propre pensée d'enfant, de sa langue inarticulée, s'évertuait à épeler. On ne lit jamais un livre, on se lit à travers les livres, soit pour se découvrir, soit pour se contrôler, et les plus objectifs sont les plus illusionnés. Le plus grand livre n'est pas celui dont le communiqué s'imprimerait au cerveau, ainsi que sur le rouleau de papier à un message télégraphique, mais celui dont le choc vital éveille d'autres vies et de l'une à l'autre propage son feu qui s'alimente des essences diverses est devenu incendie, de forêt en forêt bondit. Je n'essaierai donc pas d'expliquer ici le sens libérateur de la vraie pensée de Spinoza, mais celui que j'y ai trouvé, parce que depuis l'enfance mon obscure passion, à tâtons, le cherchait. Et certes, ce n'est point le maître de l'ordre géométrique, Ethica ordine geometrico demonstrata, ce n'est point le rationaliste qui m'a conquis en Spinoza, quelque jouissance esthétique que me procurent les jeux magnifiques de la raison. C'est le réaliste. Qu'il est étrange que cet aspect de la grande figure soit recouvert, jusqu'à devenir invisible, par le lourd verbalisme intellectuel des philosophes de profession. Comment, du premier regard, ne saisissent-ils pas ce regard, cette voix, ivre du réel ? Ouvrez les guillemets. Il est absolument nécessaire de tirer toutes nos idées des choses physiques, c'est-à-dire des êtres réels, en allant, suivant la série des causes, d'un être réel à un autre être réel, sans passer aux choses abstraites et universelles, ni pour en conclure rien de réel, ni pour les conclure de quelque être réel, car l'un et l'autre interrompent la marche véritable de l'entendement. Fermez les guillemets. N'est-ce pas un principe de réalisme halluciné qui gouverne en ces mots le traité de l'entendement, ajoutant aussitôt après, avec l'imperturbable assurance du visionnaire, ouvrez les guillemets, mais il faut remarquer que par la série des causes et des êtres réels, je n'entends point ici la série des choses particulières et changeantes, mais seulement la série des choses fixes et éternelles. Fermez les guillemets. Les choses fixes et éternelles sont réelles. Elles sont le plus réel, et tout ce qui est réel est individuel. Les choses fixes et éternelles sont particulière. Point d'abstraction. Des essences, des êtres. Tout est être. Et les modes innombrables et finis. Et l'infinité des attributs infinis. Et l'être des êtres, la substance. L'être unique, infini. L'être qui est tout l'être et hors duquel il n'y a rien. Vertige. Vin de feu. Ma prison s'ouvre. Voilà donc la réponse obscurément conçue dans la douleur et dans le désespoir, appelée par des cris de passion aux ailes brisées, obstinément cherchée, voulue, dans les meurtrissures et les larmes de sang, la voilà rayonnante, la réponse à l'énigme du sphinx qui m'étreint depuis l'enfance, à l'antinomie accablante entre l'immensité de mon être intérieur et le cachot de mon individu qui m'humilie et qui m'étouffe. Nature naturante et nature naturée, c'est la même. Tout ce qui est en Dieu. Et moi aussi, je suis en Dieu. De ma chambre glacée où tombe la nuit d'hiver, je m'évade au gouffre de la substance, dans le soleil blanc de l'être. Horizons inouïs. Mon rêve, même en ses vols les plus délirants, est dépassé. Non seulement mon corps et mon esprit, mon univers, baignent dans des mers sans rivage, l'étendue, la pensée, dont nulle caravelle ne pourra faire le tour, mais dans l'insondable immensité, j'entends bruire à l'infini d'autres mers inconnues, des attributs innombrables, inconcevables, à l'infini. Et tous sont contenus en l'océan de l'être. Entre son pouce et son petit doigt, ils tiennent à l'aise. L'intuition de Spinoza ouvre les cieux fermés, de 2 siècles en avance, pionnière des conquistadors de la science moderne. Et si, dans ces nouveaux mondes, elle sait et nous dit que sous notre forme humaine, nous n'aborderons jamais, elle nous communique l'ivresse de la certitude qu'ils existent, qu'ils sont là, près de nous. Ce n'est pas seulement un fait de connaissance, mais le battement de cœur d'une coexistence. Enrichissement prodigieux de mon univers, il n'y a qu'un instant étranglé dans la cage de ma maigre poitrine. Et mon cœur ne souffre pas de son énormité. Les ailes étendues, planant sur ces espaces, souffle à souffle, seul à seul, fixant le regard sans ciller de la face omniprésente. Facies totius universi. Je me sens soutenu par l'infaillible main de la libre nécessité qui émane du Dieu. je ne tomberai point, car je suis sien. Ma chute serait la sienne. Si una pars materiae annihilaretur, simul tota extensio evanasceret. Je ne puis tomber qu'en lui. Je suis calme. Tout est calme. Je jouis de ma plénitude et de mon harmonie. Ouvrez les guillemets. Possédant par une sorte de nécessité éternelle la connaissance de moi-même et de Dieu et des choses, jamais je ne cesse d'être, et la véritable paix de l'âme, je la possède pour toujours. Fermez les guillemets. Mais ces dernières lignes de l'éthique, il ne faut pas les lire, et je ne les lisais pas, avec les yeux froids de l'intelligence. Il faut y apporter la passion de son cœur et l'ardeur de ses sens. Il faut participer au spasme de cette béatitude, ainsi que lui-même il la nomme, notre Krishna d'Europe, et qui est un amour et une volupté, la plus voluptueuse des jouissances humaines. A aeternitatem hoc est infinitam existendi, sive invita latinitate essendi fruitionem. Goûtez la saveur sensuelle de ce latin barbare, essendi fruitio. De mes yeux, de mes mains, de ma langue, tous les pores de ma pensée, je l'ai goûté, j'ai étreint l'être. Ô rire de Zarathoustra, je n'ai pas attendu Nietzsche pour te connaître. Tu résonnes ici, mais de quelles harmonies plus belles et plus pleines, et comme elles sont proches de celles de l'ode à la joie. Ouvrez les guillemets. La joie est une passion qui augmente ou favorise la puissance du corps. La joie est bonne, la gaieté ne peut avoir d'excès, et elle est toujours bonne. Le rire est un pur sentiment de joie, et il ne peut avoir d'excès, et il est bon. Plus nous avons de joie, et plus nous avons de perfection. Jouir de la nourriture, des parfums, des couleurs, des beaux vêtements, de la musique, des jeux, des spectacles, et de tous les divertissements que chacun peut se donner, sans dommage pour personne. User des choses de la vie et en jouir autant que possible. Se réunir aux autres et tâcher de les unir, car tout ce qui tend à les unir est bon. S'efforcer de partager sa joie avec les autres. S'unir en pleine connaissance avec toute la nature. Fermez les guillemets. Seit umschlungen Millionen. Embrassons-nous, millions d'êtres. Juillet 1924.